Tech & Co Business, le débat.
Allez, on passe, on va parler de IA for Dev. Voilà, vous parlez de IA for Cyber, IA pour plein de choses. Ben là, c'est, et si un jour les développeurs disparaissaient? Eh bien, c'est la question à laquelle on va se s'intéresser avec nos deux invités. Rémi Jacquet, directeur général de Cast Software France. Bonjour.
Bonjour.
Rémi, merci d'être avec nous. Donc, Cast Software, qui est un éditeur spécialisé dans l'analyse de code, dans l'analyse des logiciels, hein, sur tout ça. Et puis, on parlera justement, parce que depuis 2023, Rémi, tu es à l'origine d'un think tank, avec, alors, au départ, il y avait quelques DSI. Aujourd'hui, c'est une centaine de DSI. Il y a le CIGREF aussi, sur l'impact de l'IA générative, de l'agentique, sur le développement. Et ça tombe bien parce qu'il y a des rapports qui sont, enfin, il y a des travaux qui sont sortis, des groupes de travail. Et on va s'intéresser pour décrypter un peu tout ça. Et puis, Didier Girard. Bonjour, Didier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. CTO et directeur général de Sphere, qui est une ESN d'environ 1000 personnes à peu près.
Oui, 1000 personnes.
Et là, des développeurs. Pur et dur, voilà.
Il y en a
beaucoup. Première question, un peu à tous les deux là sur l'actualité. On voit évidemment tout ce qui est en train de se passer. On a les outils Claude, Anthropique qui arrivent. Là, dans l'actualité, on voyait SpaceX qui se dit tiens, je vais racheter Cursor. On se dit donc ah bah tiens, ils s'intéressent tous à ce type d'outils. Comment vous voyez la transformation de ce métier des développeurs aujourd'hui, Rémi?
Bah, c'est une vraie remise en cause complète du métier du développeur. Hein. Avant le développeur, il y avait d'abord différentes catégories dans une équipe de développement.
Faut voir que là, on parle du métier de développeur en général, mais Didier pourra
Le développeur, en utilisant des agents IA, ça devient un chef d'orchestre, ça devient un manager d'agents spécialisé, capable de réaliser un certain nombre de tâches. Et donc, le développeur, en fait, va confier un certain nombre de tâches à ces différents agents et il va devenir un peu une sorte de juge de paix, de contrôler ce que font ces agents. Par contre, ça demande des qualités, des soft skills qui sont vraiment spécifiques. Ouais. Tous les développeurs vont pas être capables d'avoir forcément peut-être ce niveau-là. Il va falloir les former, il va falloir les accompagner. C'est une vraie remise en cause. Mm-hmm. Et donc, du coup, que ce soit pour les DSI ou pour les ESN, c'est une vraie remise en cause, qui est intéressante, mais en même temps qu'il faut être capable de gérer.
Alors justement, Didier, on va en parler. Vous êtes au cœur avec Sphere, évidemment, de tous ces développeurs. Comment ils ont vu ? Alors ces outils-là, ils les ont vus, ils les ont intégrés très rapidement. Mais comment ils les perçoivent aujourd'hui, ces outils ? Est-ce que c'est des outils d'accélération, des outils de transformation, de meilleure productivité, mais pas seulement ?
C'est un peu tout ça à la fois, en fait. Ouais. Déjà, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que maintenant, écrire du code, c'est devenu un anti-pattern. Ouais. C'est-à-dire, il faut considérer qu'une intelligence artificielle, maintenant, elle est capable de produire du code globalement de meilleure qualité que la plupart des ingénieurs. Mmh. Ça, il faut maintenant l'accepter, ouais, en fait. Et donc, notre métier, le métier d'ingénieur et de développeur qui, historiquement, était de dire, on va rédiger du code, maintenant, on peut complètement confier ça à une IA.
Et du coup, qu'est-ce que ça change, enfin, pour les métiers? Parce que j'imagine, il y a quand même une crainte. Là, c'est 1000 personnes, c'est sûr, mais bon, dans l'ensemble, on est quand même un pays où on a de belles ESN. Il y a quand même une crainte un jour de se voir un peu perdu dans tout ça et je posais la question en ouverture. Et si des développeurs disparaissaient, elle est vraiment présente cette crainte dans les équipes, alors celles que vous côtoyez dans mon quotidien, mais globalement chez...
Moi je dirais que c'est plutôt un sujet qui est de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire on aura toujours besoin de gens qui construisent du système d'information. C'est une certitude. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est vrai que les chiffres qu'on voit comme quoi une intelligence artificielle peut être 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus efficace qu'un ingénieur, c'est vrai en fait. Il faut considérer que c'est vraiment la réalité. Maintenant, est-ce que pour autant notre métier va disparaître? Mais pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'on va déléguer à l'intelligence artificielle la capacité d'analyse, la capacité de raisonnement. Mais le côté on prend une décision, il restera toujours du côté des humains, en fait.
Et c'est là, Rémi, on reviendra dans un instant, parce que justement, c'est l'une des premières, un des groupes de travail, une des premières réflexions fortes de ce think tank, hein, fait autour de l'impact de l'IA générative pour les codeurs, c'est ce codeur qui devient concepteur, orchestrateur. Et c'est un vrai rôle important aujourd'hui.
C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, historiquement, on avait plutôt des ingénieurs qui étaient spécialisés. En gros, on disait on avait des front-end engineers, des back-end engineers, des data engineers. Plus ça va aller, en fait, et plus le métier, en fait, va s'étendre. Et ce qu'on va rechercher, c'est des gens qui sont capables, globalement, de comprendre le système d'une manière globale et qui vont déléguer l'expertise à des spécialistes qui sont, en fait, des AI.
On va voir plus d'architectes logiciels, c'est ça l'idée?
Ouais. Avant, en gros, tu avais une tribu d'environ une équipe de 10 personnes, 10 développeurs avec différents profils.
Pendant 15 jours, 3 semaines,
voilà, ça qui faisait ce qu'on appelle des sprints de 14 jours. Mm-hmm. Maintenant, ça va être soit un chef d'orchestre, un peu product owner, software architect qui va tout faire, soit un duo qui va être capable de faire le travail de 10, mais non pas en 14 jours, mais dans non plus ce qu'on appelle des sprints, mais des bolts, des éclairs, en une heure, une demi-journée. Donc, pour être capable dans une organisation de passer à ce mode-là, c'est carrément une remise à plat complète de ce qu'on appelle le software development lifecycle.
On va avoir des facteurs de productivité qui vont être importants, mais ça veut dire aussi que il faut apprendre, parce que je me dis toujours, moi la sensation que j'ai avec l'arrivée de cette IA générative dans quelques métiers que ce soit, c'est le management intermédiaire, parce qu'on se retrouve avec alors après on verra, hein, pour intégrer les jeunes développeurs aussi, ça c'est une autre histoire, mais le management intermédiaire, il va devoir gérer à la fois des développeurs en chair en os. Et puis d'autres, il gérait déjà des robots avec le RPA et tout ça, mais de l'autre aussi des agences. C'est ça qui change aussi.
C'est une remise à plat, en effet, de l'organisation. Et tu vas avoir beaucoup de product owners, software architectes qui vont directement dialoguer avec le business et qui vont prendre l'entière responsabilité d'une partie du système d'information, d'une application. Et c'est eux qui vont entièrement tout gérer en ayant créé et en étant chef d'orchestre de ces agents IA qui vont réaliser à la place de cette équipe de 10. Mm-hmm. Ils vont être capables de faire les tâches de coding, les tâches de design au départ, les tâches de QA, les tâches de DevOps, de contrôle, de conformité.
Et du coup, ça veut dire quoi? Et je vais poser cette même question à Didier Gérard dans un instant. Mais du coup, ça veut dire quoi en termes de reskilling? Parce que les métiers ne sont plus du tout les mêmes. On va avoir, il y a les gens qui adoraient développer. C'était, ils avaient cette, comme certains aiment écrire des romans, qui adoraient écrire des lignes de code et qui cherchaient la beauté du code presque.
Il y a certains développeurs qui sont contre l'IA pour des raisons éthiques, il y en a qui ne font pas confiance, il y en a qui aimaient écrire du code, qui ne vont pas forcément apprécier le fait de passer sur un rôle de software architecte, validateur du code généré.
Je ne crée plus.
Tu as des gens qui n'auront pas forcément le niveau. Et donc ça veut dire qu'il va falloir en effet se poser des bonnes questions. Après, l'objectif, ça va être de dire avec cette même équipe, si on arrive à faire cet accompagnement du changement, de former et de transformer, les équipes vont pouvoir absorber beaucoup plus de demandes. Et souvent, il y avait un backlog des applications ou des projets qui ne pouvaient pas être traités faute de ressources. Là, c'est sûr que ça va donner une marge de manœuvre très significative pour être capable de réaliser beaucoup plus et accompagner l'entreprise dans l'évolution de son business en étant capable vraiment de produire tout ce qui va, toutes les idées qui vont venir du business. Là, normalement, une DSI va être capable d'y répondre.
On reprend après la maîtrise du temps, Didier Gérard, parce que c'est vrai que les projets informatiques, on le voit tous, hein, quand on est confronté à ces projets, on nous dit, ah oui, mais ça sera pas avant novembre, ça sera plutôt en 2027. Là, du coup, on reprend un peu la maîtrise du temps. C'est-à-dire qu'on a besoin toujours de ces 1000 personnes chez vous, mais on va aller plus vite sur certaines choses.
Alors déjà, pour revenir sur le 1000, en fait, ce qu'on dit maintenant, nous, chez Sphere, on est 1000, mais on a une capacité de production de 10 000, en fait. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'effectivement, on va être capable de produire beaucoup plus avec le même nombre de personnes. Donc souvent, il faut le voir un peu comme ça, c'est-à-dire que ça permet de produire beaucoup plus. Alors, le plus vite, évidemment, on va être capable de produire beaucoup plus vite. Et pour revenir à ça, c'est historiquement, Amazon avait inventé la fameuse pizza team.
Oui. On est 6-7,
Il faut se dire, si on prend cette pizza team c'était plutôt 8-10 personnes, on fait x10, on arrive sur des équipes de 80 à 100 personnes, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut plus, la pizza team, comme elle existait, elle fonctionne plus à l'ère de l'AI. En gros, ce que j'aime dire, c'est que c'est comme si on se met à 10 pour vider un lave-vaisselle. Finalement, on n'ira pas plus vite. L'arrivée de l'AI, c'est une espèce de mécanisation de la production de code. Et si les équipes restent de même taille, finalement, elles vont se marcher un peu sur les pieds.
Donc comment on fait? On doit segmenter davantage dans les équipes
de développeurs. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et on parle chez nous maintenant il y aura toujours des software engineers. Le métier va pas disparaître. C'est-à-dire qu'il y a des moments où finalement, il y a des espaces où l'intelligence humaine sera toujours pertinente. Mais il y a l'arrivée d'un nouveau métier qu'on appelle le product engineer. C'est la personne qui va être capable de créer de la valeur pour un usage donné. Et donc, effectivement, il faut trouver des espaces dans lesquels des petites équipes qui sont là pour sortir du produit, et qui sont là pour créer de la valeur directement. En fait, donc, c'est-à-dire qu'on va plus mesurer la pertinence d'un acte métier à la nombre de lignes de code qui est produite, mais finalement à la valeur qui est créée pour un besoin particulier.
Avec le temps imparti, c'est une transformation majeure dans les DSI. D'ailleurs, dans le think tank, c'est ce qui est dit.
Ouais, dans le think tank, il y a un nouveau groupe de travail qui s'est créé cette année. Avant, on avait des groupes de travail plutôt techniques. Mm-hmm. Le développeur augmenté, la modernisation des applications,
l'automatisation des tests.
Et là, maintenant, il y en a un, c'est la remise à plat de ce qu'ils appellent le software development lifecycle, avec tous les enjeux humains, organisationnels. Il y a vraiment un groupe de travail sur ce sujet-là pour voir comment transformer une DSI. À la rigueur, c'est peut-être plus facile de créer une nouvelle DSI qui serait déjà agent AI, agent-based, que de devoir transformer une DSI. Par contre, il y a des risques que ça introduit cette technologie d'IA. On va y arriver.
On va y revenir, mais dans le débat juste avant, on disait le rôle important des DRH. Ça va être ça, ce rôle.
Il va y avoir besoin, en effet, que les DRH, les DSI, les directions générales. De toute façon, s'il n'y a pas une prise de conscience d'une direction générale et d'une DRH des enjeux et des besoins de transformation, et donc c'est pas simplement mettre des budgets pour payer des licences et faire quelques formations. Alors c'est vraiment des budgets très conséquents de transformation d'organisation.
Didier, pour moi le succès de l'adoption de l'AI dans les organisations et dans les DSI, c'est le rôle de la DRH est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il faut réimaginer des nouveaux métiers. Il faut voir que l'ensemble des compétences qui permettait un peu de mesurer la valeur du sachant, elle est en train d'être complètement bouleversée. Voire, on sait qu'avant, on acquiert une compétence.
On va contrôler quoi, les gens au token consommé, au nombre d'agents créés, ça peut être ça.
En fait, c'est avant, on acquérait une compétence et on va dire, on pouvait vivre une dizaine d'années sur cette compétence acquise. Ouais. Maintenant, on peut considérer que ça s'est drastiquement réduit et qu'en gros, on acquiert une compétence et durée de vie un an. Et donc, ne serait-ce que la fiche de poste, si la fiche de poste est principalement basée sur les compétences, on a un sujet parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Alors, faut toujours se méfier. Donc, le token, ça devient un petit peu le fuel de la construction de valeur.
On a vu chez Nvidia, parfois, ils leur donnent plus de primes, ils leur donnent des tokens.
C'est vrai, je connaissais pas l'anecdote, mais c'est amusant. Mais c'est vrai que on va pouvoir se poser la question, c'est dans son équipe, on a quelqu'un qui consomme pas de token. On peut se dire qu'il y a un sujet. C'est un petit peu comme si vous étiez le patron d'une société de taxi et que vous avez un chauffeur de taxi, il est super, il consomme pas d'essence. Finalement, vous dites, est-ce qu'il crée de la valeur? Alors, je dis pas que c'est parce qu'il consomme de l'essence qu'il crée de la valeur, mais en tout cas, s'il n'en consomme pas.
Pas mal, pour bien comprendre.
Ouais.
Les risques, c'est quoi? Je sais qu'il y a un risque déjà au niveau des juniors.
Il y a un risque là-dessus. Puis l'IA, c'est quand même une technologie qui fait une analyse probabiliste et qui est assez indomptable. Et donc, quelque part, si vous la canalisez pas, si vous l'orientez pas, si vous la laissez faire, si vous ne mettez pas des garde-fous,
elle a ses propres,
il y a un risque. Et donc, c'est là où ce que nous, on propose, c'est une technologie qui fait une analyse non pas probabiliste, mais déterministe, et qui va permettre de canaliser et de mettre à disposition de l'IA un certain nombre d'informations structurées pour un peu forcer l'IA à exploiter ces informations dans son modèle opératoire, dans la manière de réfléchir et de proposer. Et ensuite, on va aller contrôler le code qu'elle produit. Parce que le code qu'elle produit, il faut vérifier qu'il est bien cohérent d'un point de vue structurel, architectural. Or, l'IA, elle va un peu trop vite. Elle est un peu imprévisible.
Oui.
Et donc, il y a vraiment ça à faire. Et plus les outils IA deviennent puissants, plus quelque part, les développeurs et les équipes vont baisser leur garde.
Oui.
Et donc, c'est ça qui est un peu antinomique. Oui. Plus l'IA devient forte, et plus il y a de risques. Et c'est là où il faut être capable de la contrôler avec du déterminisme.
Exactement, très intéressant.
Techno-française d'ailleurs.
Techno-française, important.
Ce que je disais, c'est 2024, en gros, on était sur du prompt engineering.
Oui.
2025, sur du context engineering. Donc, il fallait se méfier. Si on met trop de choses dans l'intelligence artificielle, elle s'y perd, elle pourrit un peu. Donc là, on maîtrise maintenant. Et donc, c'est effectivement, CAS propose maintenant des solutions de type harness engineering, qui sont là, en fait, pour contrôler la manière dont l'AI avance.
C'est ça. Et j'ai oublié, j'en ai parlé ce matin à Rémi au téléphone. Il y a une tribune, d'ailleurs, dans les Échos aujourd'hui sur harness technology. Voilà, c'est ça de Sylvain Duranton du BCGX qui en parle.
Et on dit justement, un agent, c'est un LLM. Plus des harnais.
Voilà, c'est exactement ce qu'il dit.
Mais sur la consommation de tokens, je reviens. Oui. Si tu déploies un agent IA, enfin l'IA, auprès de 1000 développeurs et que tu commences à les laisser jouer avec, ta consommation de tokens, elle peut exploser. Donc c'est là où il faut à un moment essayer de canaliser et limiter l'IA là où elle apporte une vraie valeur. Et parfois, c'est en utilisant une technologie type déterministe qui va aller chercher de l'info pour empêcher l'IA, quelque part, d'aller la rechercher de manière systématique, qui va faire une consommation de tokens qui va être totalement hors contrôle.
Juste un dernier mot, je suis un jeune junior développeur, je dois m'inquiéter ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire pour...
Non, juste parfaitement. Au contraire, il y a vraiment des postes à prendre à partir du moment où la personne a compris qu'il doit devenir un chef d'orchestre, une sorte de software engineer. Et donc, par contre, il faut quand même développer sur les fondamentaux de maîtrise de tout ce qui est de l'architecture logicielle. Il y a quand même un certain nombre de fondamentaux qu'il faut maîtriser. C'est compliqué pour un jeune à acquérir.
Du code et de la partition. Il faut vraiment avoir la symphonie, ce côté chef d'orchestre.
Exactement. Il faut travailler sa compréhension, en fait. L'acte de dire « je produis du code », finalement, maintenant, il n'est plus tellement utile. Il faut travailler le côté systémique et compréhension globale du système.
Et puis un tout dernier mot, Rémi, on le dit, ça va secouer assez sec quand même dans l'ingénierie logicielle. Et ça veut dire, là on a parlé des équipes de développement, de production, mais tout le monde doit y être, à la fois bon, les DSI, on vient d'en parler, mais les DG,
tout l'écosystème, DRH, on en a parlé. C'est aussi les écoles, on avait échangé avec Epita, qui participe d'ailleurs au think tank, parce que c'est aussi aux écoles, à un moment, de revoir leur cursus de formation pour que les jeunes qui vont arriver... Eh bien, le profil et les compétences et l'expertise pour faire en sorte que les DSI aient envie de les embaucher.
Voilà, vous voyez, on est plutôt enthousiaste ici pour ce métier. Alors, encore une fois, on dit métier de développeur, mais il y a tellement de sous-métiers dans tout ça et Didier le connaît parfaitement. Merci à tous les deux. Didier Girard, CTO et DG de Sphere, SN de 1000 personnes, Sphere, S-F-E-I-R, voilà, si vous nous écoutez en radio. Et Rémi Jacquet, directeur général France de Cast Software. Merci Rémi, donc au créateur de ce think tank autour des 100 DSI. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de Cast Software, du CIGREF. Voilà, et vous allez pouvoir
co-animer avec le CIGREF maintenant depuis un an.
Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business et retrouvez-nous évidemment sur les replays et les podcasts.
Tech & Co Business sur BFM Business.